Io lo so. D'ailleurs, c'est facile. Qu'est-ce que je dis, Étienne ? Que je crois miraculeux. Ça ne veut pas dire que le christianisme ne soit pas un paganisme. Je dis, mon Dieu, surtout de toutes les créatures à leur manière. Alors, on revient au sommet monothéisme français. On revient au problème. À l'intérieur, donc, de ce sursis général donné à Caïn, l'histoire prouvera. Qui était Caïn? Voilà que, prenez le chapitre, le verset 17, Vayeda Caïn et Isto, Caïn a connu sa femme, Vatahar, elle conçut, Vatelé de Hanot. Voilà qu'il a un fils que la Torah appelle Hanot. Vous avez remarqué dans la même expression que la Torah ne dit pas elle eut un fils et elle l'appela Hanot. Elle enfant, un enfant qui s'appelle Hanot. On reprend un peu l'analogie que je vous avais donnée avec Caïn. Vatelé de Caïn. Et pas Vatelé de Ben, Vatelé de Chenou Caïn. Vous avez entendu en anglais? Et alors, ça c'est un Hanor de la lignée de Caïn. Nous retrouvons un Hanor dans la lignée de Shem, à la 7e génération de Shem. Je crois que j'en ai parlé la semaine dernière, si mes souvenirs sont exacts. C'est pas le même. Mais il y a le même nom. Il y a la même connotation de signification du nom et donc d'identité. Voilà l'explication que je voulais proposer, c'est que la capacité de fraternité qu'il y avait dans Abel et qui a été supprimée par Caïn va être restituée dans sa fonction éducative, éducatrice, dans la personne du fils, pas du frère. Alors là, mettez le vocabulaire chrétien à part, je ne voudrais pas qu'il y ait des risques de court-circuitage. Hein. C'est-à-dire, le fait de prendre conscience qu'il y a une autre manière d'être que celle de l'homme Caïn, c'est l'enfant. Ceci peut être une aide à retrouver la dignité de l'autre. Alors, je vous envoie les expressions père et fils. Le père, c'est Caïn, le fils, c'est Hanor. Mélangez pas ça avec ce dont on a parlé tout à l'heure, hein, ce que les chrétiens en ont fait, de ces catégories qui sont d'origine hébraïque. C'est Caïn devient père quand il a un fils. Et là, se restitue la relation à autrui. Plus atténuée, pas la même que de frère à frère, d'une autre manière, mais quand même. Le fait qu'il y ait une autre manière d'être homme que la sienne, qui devient père parce qu'il a un fils, peut restituer cette relation d'autrui à autrui. Est-ce que j'ai suffisamment expliqué? D'ailleurs, quand vous aurez des enfants, vous pouvez vous en rendre compte. L'autre que soi. On n'a pas accepté le frère comme autre que soi. Mais peut-être que le fils, on va l'accepter comme autre que soi. C'est clair l'idée? Donc ici, le fils comme fils peut être, mettez des guillemets, le sauveur de Caïn. Vous voyez d'où ça vient, tout ça, toujours ça. Alors, je reviens au problème. Il s'appelle Hanou. Ça veut dire que Caïn pourrait être éduqué dans la dignité de l'autre, dans le problème de la dignité de l'autre, par le fait qu'il a un fils. Vous voyez comme le texte est très précis. Okay? Dans ce sursis général, quelle est l'aide que Caïn peut avoir pour essayer de s'en sortir, cette manière d'être homme qui s'appelle Caïn, d'avoir un fils comme tel, il est un homme. Vahi Boneir, il construisit une ville, vous voyez Rashi, et d'après la construction de la phrase, c'est Caïn qui construit une ville. Et il nomma le nom de la ville comme le nom de son fils. Alors c'est le cours d'aujourd'hui qui commence là. C'est la deuxième, la troisième catastrophe. Alors je vais vous dire plusieurs lectures jusqu'à ce qu'on arrive au sujet lui-même. On serait tenté de lire, si on est extérieur à l'exégèse biblique traditionnelle, à la Torah Shebaalpé, que ici la Torah nous raconte une anecdote, après tout, qu'est-ce qu'elle peut nous faire que Caïn, pour honorer son fils, a appelé la ville du nom du Seigneur. Par exemple, je ne sais pas, il y a une ville en Russie qui s'appelle Stalingrad. Alors, si c'est cette lecture-là, ça serait un peu anecdotique. Bien. Vous pouvez trouver des explications de ce genre, ou entendre des explications de ce genre. Qu'est-ce qu'on a voulu dire ici? Eh bien, pour honorer son fils, il a donné le nom de son fils à la ville. Ça ne suffit pas. La Bible, ce n'est pas un récit d'anecdote convaincant. congolais. Ça ne fait pas le poids, si j'ose dire. C'est ce que le Zohar appelle, pour condamner ce type de lecture, si pourrait des durs. La Bible ne raconte pas des histoires banales. Est-ce que c'est clair? Vous avez compris depuis le début que vous étudiez, dans tout ce que vous étudiez, que c'est sérieux, qu'on ne va pas avoir entre les mains un livre qui a ébranlé l'humanité entière, un livre qui nous raconte des petites anecdotes. Je pense que c'est clair. Et alors, nous allons ici découvrir un thème que je vais essayer de vous expliquer d'abord abstraitement, théoriquement, en vous donnant une confirmation, disons, dans un autre chapitre du livre de Revêchis. Et voilà ce que je vais expliquer. Nous devons déceler dans cette chute de génération en génération, à travers ces catastrophes qui mènent au déluge, nous devons déceler finalement quelle est la catastrophe qu'il y a là quand l'homme donne le nom de l'homme à la ville. Et bien jusque-là, le nom désigne la valeur et donnée à l'homme, à la personne humaine. On enlève le nom à l'homme et on le donne à la ville. C'est la ville qui est nommée, c'est plus l'homme. Et l'homme n'est plus qu'un administré de la ville. Avant d'aller plus loin dans l'approfondissement, je voudrais être sûr que l'idée est suffisamment claire, parce que c'est vous qui m'entendez, moi je m'entends pas. Jusque-là, c'est l'homme qui est nommé. Vous avez dans un des chapitres précédents le fait que la grande prérogative de l'homme, c'est d'être capable de donner des noms. Il y a un midrash qui explique, lorsque Dieu a créé Adam, les anges étaient contre. Ce midrash, vous savez à peine que vous l'étudiez, vous le comprenez d'ailleurs. Et puis, le midrash continue, et les anges demandent, mais Martivo Shelze, ça veut dire, faites-moi traduire, Martivo Shelze, qu'est-ce qu'il a de bien, cette créature-là? Qu'est-ce qu'elle a de bien, cette créature-là? Et Dieu répond, et il sera capable de nommer les êtres et les choses. C'est sa prérogative. Or, le nom, jusque-là, est réservé à l'homme. C'est l'homme qui est nommé. Je vous ouvre une parenthèse. Et la catastrophe, on enlève le nom à l'homme, on le nomme à la Bible. Vous allez tout de suite, le fils de Hanor va s'appeler Irad. Vous voyez, dans le nom de Irad, il y a le nom de Ir. En prenant les termes que je vais employer dans le sens du sujet, c'est plus un homme, c'est un citadin, dans le sens étymologique, un membre de la fourmilière qu'on appelle la cité. Vous avez compris ça? Il s'appelle Irad. C'est aussi un personnel. Attends, je reviens ce que je dis. À propos de qui? De Irad. Bien fait. Ça devient un personnel. Et vous savez, dans l'ancien français, quelqu'un qui habitait un bourg, on l'appelait un bourgeois. Quelqu'un qui habitait une ville, on l'appelait un vilain. C'est vrai. Non, on est un village. Villageois. Le vilain, c'est l'habitant de la ville. Et ensuite, les bourgeois appelaient les vilains. Mais pour utiliser ça, nous sommes en ancien français. On peut utiliser ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Je pensais aux villes du Moyen-Âge. Vous voyez, tous ces tableaux du Moyen-Âge, on vous montre des vilains, ils n'étaient pas habillés de la même façon que les bourgeois. Vous vous rappelez de cela? Qu'est-ce que vous avez dit?
La ville qui donne le nom à l'individu. L'Angleterre. Vous cherchiez votre idée, je voulais dire que vous en étiez à la ville qui donne le nom à l'individu.
C'est l'inverse. C'est l'individu qui a donné son nom à la ville, Habibi.
Mais la génération d'après, c'est la ville
qui dit... Non, c'est plus un nom. C'est un numéro sur une carte d'identité. Vous voyez, la personne continue à être assassinée. C'est la ville impersonnelle, le monstre, qui devient la valeur. On rentre dans l'impersonnel absolu. Vous avez ces livres de science-fiction assez inquiétants, terrifiants, qui vous montrent la société des robots en marche, elle, les ordinateurs, et la personne humaine assassinée là-dedans. Par exemple, le meilleur démon de Orson Welles, c'est comme ça que ça s'appelle. Hein? Machin Kassi, mais ce genre de livre-là. Vous voyez, je vais vous donner une parenthèse. Il est certain que, quand on étudie ça en anthropologie, que dans toutes les sociétés anciennes, je n'ai pas dit primitives, anciennes, on savait que c'est le peuple qui a le nom, et pas l'endroit qu'il habite. Et puis, je vais prendre l'exemple de la France, que je donne habituellement, vous allez voir le déplacement de la valeur. On va faire ça comme un conte de fées. Jadis, il y avait les Francs, un peuple, les Francs. Et puis on a pris le nom du peuple, on l'a donné au pays, la France. Maintenant, il n'y a plus que des Français. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas francs, mais vous comprenez, je veux dire. Il y avait les Francs. C'est cette manière d'être homme qui est appelée les Francs. Et puis maintenant, il n'y a plus de Francs, il y a la France. Et puis alors, il y a les Français, les citoyens de la France. Et la France, ça passe avant les Français. Vous vous rappelez de Gaulle, je me suis toujours fait une certaine idée de la France. Et les Français, bon, puis d'où vient, après, il dit les Français, c'est des Gaules. Vous vous rappelez de ça ? Bon, c'est pas seulement anecdotique, c'est une espèce de processus qui se produit, c'est clair, qui se produit finalement à peu près dans toutes les cités, sauf en Israël. Et là, je vous la parenthèse. C'est le peuple d'Israël qui s'appelle Israël. Le pays d'Israël s'appelle le pays d'Israël, Eretz Israël. C'est le peuple qui s'appelle Israël. Est-ce que c'est clair ? Mais il est certain que, à l'origine, tous les peuples avaient cette conscience. Ce sont les hommes qui sont nommés la manière d'être, et pas le pays. Et Hamakom Mechabed et Adam, et la Adam Mechabed Mekom. Ça, c'est une gamara. Alors, ce qui est arrivé au Goïm, ce qui arrive là, on prend le nom de l'homme, on le donne à la cité, et après, vous n'avez plus que les citadins. Qu'est-ce qui se passe du point de vue de notre problème? Il n'y a plus de problème moral. Quelle que soit la réaction de telle ou telle conscience d'élite qui réagit au nom de la morale. Il y a un problème d'administration de la société, qui est un problème impersonnel, de sociologie. Et la catastrophe, c'est ce qu'on appelle la morale sociologique. Vous voyez, cet approfondissement de l'engloutissement de la personne dans l'impersonnel. Vous savez très bien que c'est le drame des sociétés contemporaines. Comment empêcher le monstre municipal, bureaucratique, de finir d'assassiner la personne humaine. Vous savez, tous les problèmes de la dignité du chacun qui est chacun viennent de cette confrontation entre la morale et l'administration. C'est clair jusque-là. On retrouve d'ailleurs le problème, la différence entre la morale et la légalité. Voilà, là il y a une catastrophe. Et on le sent dans le récit. Et voilà, le malheur qui arrive, Vaïkra, Shemaïr, Keshem, Benoch. Catastrophe. Ça veut dire Caïn est aidé dans son histoire par l'apparition du fils comme fils. Le fils peut éduquer le père. Bera Mezakerba. Le fils peut sauver le père, si vous voulez. Et, mais voilà, qu'est-ce que fait le père? Il assassine le fils en tant que fils en donnant le nom de l'homme à la cité. Ça va jusque-là? Bon, si c'est clair, je peux vous donner maintenant une illustration en faisant une parenthèse dans l'histoire des patriarches. Bien. Vous allez prendre le chapitre 30, vous êtes 34, je vais dans les suites, je crois que c'est ça. C'est 34, le chapitre 34. Et je vous demanderai de lire attentivement par vous-même. J'ai oublié, je ne sais pas qu'on est arrivé là, je vais vous dire la semaine dernière, je vais vous dire à l'avance, mais vous le lirez pour compléter ce que je vais vous indiquer. C'est plein d'études à faire, mais je vais raconter l'histoire. Chapitre 34. Lorsque Jacob revient de l'exil de chez Laban, il s'arrête à un endroit qui s'appelle Shrem, Sichem en français, Naplouse chez les Arabes. D'ailleurs, ils disent Naplouse, parce qu'ils ne peuvent pas prononcer le P. Vous savez cela, que les Arabes, ça aide beaucoup la police pour savoir dans qui on a. Et alors, on leur demande où sont tes clés. Allez, à Mortea. Et ils n'ont pas de Torah chez Valpé. Pour revenir au problème, Vous avez un endroit qui s'appelle Shrem, et on apprend que le prince de la ville est tombé amoureux de Dina et a voulu se marier avec Dina. Seulement, il s'est conduit en barbare, il l'a violée. Alors les frères de Dina, Shimon et Lévi, ont assassiné tous les gens de la ville de Shrem. Voilà, grosso modo, l'histoire qu'on nous a racontée dans ce chapitre. C'est plein de questions. Donc, il y a une question qui fait problème. Mais avant de les assassiner, les ont circoncis. On se demande quelques exodés ici. Et pourquoi tu te fatigues à les circoncis? Les frères sont circoncis pour attendre qu'ils soient fatigués à cause de la circoncision et pouvoir profiter. Mais si déjà deux Hébreux, frères de Dina, peuvent assassiner une ville, circoncis ou pas circoncis, c'est que c'est déjà. Bon, tout ça, c'est plein de difficultés qu'on étudie. Qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre? Qu'est-ce que c'est que cette scène qui nous est racontée? Or, on s'aperçoit dans ce chapitre que Jacob, jusqu'au bout, tient à ce que le mariage se fasse, bien que il sait ce qui s'est passé. Que Shrem a d'abord violé Dina et ensuite il est venu la demander en mariage. Vous voyez quelles sont les conditions dans l'histoire. Alors je prendrai le problème par là. Comment comprendre que Jacob, arrivant à Shrem, prépare le mariage de Dina? Et pourquoi c'est là-bas qu'il va pour ça? Alors il faut d'abord se rappeler que, normalement, a priori, il aurait dû avoir 13 tribus d'Israël. Mais Jacob n'a eu que 12 garçons et une fille. Un Midrash indique que même cette fille, Dina, aurait dû être un garçon. Il y a des raisons pour lesquelles elle est née comme une fille. Et tant que nous n'avons pas une 13e tribu, l'unité d'Israël est en question. Je vais assez rapidement dans l'analyse, vous m'arrêtez si c'est trop rapide ou si c'est pas assez clair. Vous savez d'ailleurs que le mot de Echad, qui signifie un en hébreu, a pour gamatria 13. Il faut être 13 pour être Echad. Il y a 13 dimensions de l'unité. De la même manière qu'on parle des Shloshesre Midot, du dieu 1, on parlera des Shloshesre Shvatim, du peuple 1. Les 13 tribus d'Israël correspondent aux 13 attributs de l'unité de Dieu, ici on est aidé par le français. Tribu, attribut. Et voilà qu'il en manque un. Et nous savons que s'il en manque un des 13, l'unité manque. C'est ce qui ressort, on dirait dans notre texte, du dialogue entre les frères de Joseph et Joseph. Quand ils disent, il y en a un, on ne sait pas où il est, ils disent comme ça, Veha Echa Denenu. Au lieu de dire Echa Denenu, ils disent Veha Echa Denenu. C'est-à-dire, si Echad un manque, Echad manque, l'unité manque. Et alors, on voit que Jacob va être préoccupé par ce problème de la 13e tribu toute seule. Je vais le récapituler. Il a espéré que Shrem pourrait être le mari de Dina et fonder la 13e tribu. C'est ce qu'il discute avec ses fils. Okay? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que Shimon et Lévi interviennent et ils disent à Jacob, nous ne sommes pas que les fils de Jacob, nous sommes Israël, et en Israël on n'accepte pas ça. Jacob, comme Jacob l'aurait accepté, mais Israël l'accepte pas. C'est un autre thème, mais réfléchissez à l'avance, c'est deux niveaux d'identité. Jacob, qui n'est que Jacob encore, et quand il reçoit les noms d'Israël, c'est un autre niveau. C'est clair, c'est ce que dit Shimon et Lévi. Est-ce qu'une crapulerie pareille, en Israël, c'est possible? Alors que Jacob semble être conciliant. Quel? Ça fait partie du sujet?
Mais même pour celui d'Israël,
tu me rappelles la question juste après, et il ne la reproche pas, il est félicite. Alors, je sais bien qu'on peut lire comme s'il la reproche, mais suivez le derrière. Okay. Mais tu as posé une bonne question. Je ne me laissais pas partir avant de répondre. On a le temps, et là on n'a pas le temps. Alors je te réponds pour la prochaine fois. Bon, j'aurais voulu te répondre tout de suite. Alors, tu reposeras la question la prochaine fois. On dira la prochaine fois, je te réponds. Alors, on revient au problème, que je finisse rapidement. Et ce problème de la différence de niveau d'identité Jacob et Israël, c'est un sujet pour lui-même que j'espère on arrivera à retrouver. Okay? C'est un sujet très important pour nous aujourd'hui. Nous sommes revenus de la galoute au niveau Jacob. Il faut devenir Israël. Et les Israéliens ont pour idéal le niveau Israël. Les Juifs de la Gola ont pour idéal le niveau Jacob. Vous apprendrez que Israël, dans la Galoute, s'appelle Jacob. Revenez en Israël, il s'appelle Israël. On apprendra de l'histoire de Jacob. Donc, c'est deux niveaux d'identité radicalement différents. Et il y a beaucoup de Juifs dans le pays. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas que des Israéliens. D'ailleurs, nous sommes tous d'origine juive. Enfin, la plupart. Il y a aussi des Druzes, il y a aussi des Tcherkesses, mais ils sont Israéliens. Mais ça, on verra ça quand on y arrivera. Et c'est pour ça que les Arabes, c'est un cas particulier, on est en guerre, mais il y a d'autres qui ne sont pas juifs et qui sont Israéliens dans le pays. Et on préférait qu'ils soient des juifs, mais les juifs préféraient être ailleurs. Vous savez, je me rappelle quand j'étais à l'armée, et on me disait, un juif est tailleur de son métier. Je crois que la vie dans les jeunes en tailleur, tous les juifs seraient là. Un juif est tailleur de son métier. Comme le tirailleur, il tirailleur. Ah, je reviens trop. Là, et c'est grave ce que je vous dis là, je vous dis comme ça en passant. Mais le fait qu'il y ait trop de juifs de l'or et pas assez ici, c'est un problème. Et c'est un problème que nous a raconté par la Torah. Alors, je reviens à la question. Ce qu'il faut découvrir, c'est cette stratégie de Jacob qui cherche, avant de mourir, à ce qui est très stratégique. Effectivement, ça échoue. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Finalement, la tribu de Joseph, il la divisera en deux, et ça fera 13. Joseph disparaît, se cache, derrière Ménaché et Ephraïm. Ça fait 13. Au moment de la faute du veau d'or, ça vous l'étudierez pour elle-même, la tribu de Lévi sort du compte des 13, il en reste 12, avec Lévi, peut-être. Okay? Donc. Et alors, ce qu'il faut découvrir ici, c'est que Jacob va dans un endroit où il sait que déjà la ville commence à rendre le nom à l'homme. On découvre que la ville s'appelle Shrem, et le fils, le prince, s'appelle Shrem. Donc c'est pas n'importe où il va. Oui. Avec qui il veut contracter mariage, pour qu'il y ait unité d'Israël et entre en unité avec l'ensemble des Goïm, avec cette manière d'être homme chez qui la capara de Tikkun a déjà commencé. Quelque part, la ville commence à rendre le nom à l'homme. Voilà ce qu'il faut découvrir dès le début du chapitre. C'est clair? Alors c'est pourquoi on sent cette préfiguration que Jacob voit à l'avance. C'est avec Shrem qu'on fera la troisième tribu. Ça échoue maintenant, mais c'est le rêve jusqu'au bout. On cherche, si j'ose dire, le prince Arthur. On découvre que le prince Arthur, c'est un barbare. Mais on a découvert que ça aurait pu exister. Espérance. Vous savez, les juifs du monde, dans le monde, pendant 2000 ans, on cherchait le prince Arthur partout. Les juifs en France étaient persuadés qu'ils étaient français. Les juifs en Russie étaient persuadés qu'ils étaient russes. Et etc. Sauf qu'on s'est aperçu que sans aucune exception, Shrem, c'est un barbare. Alors on est revenu chez nous. Mais ça, je reprendrai plus en détail. Au moment de la Révolution française, les juifs français étaient persuadés que Shrem de la Bible, c'est le français. Et finalement, il y a des Français qui sont racidés au Montarolam. Mais le français comme tel, c'est le Shrem barbare. Vous savez, les procès qu'on a avec la France. Bien? En tant que juif et en tant qu'israélien. Et ça ne veut pas dire qu'on les a avec les Français. Il y a des Français qui sont des tzadikim. La France, comme telle, les choses. De la même manière que l'Allemagne, que l'Angleterre, que l'Amérique. Il y a des chassidés au Montarolam. Mais la manière d'être homme dans cet état, qui est leur état, ça, c'est l'histoire de Shrem. On va chercher ce prince Arthur partout. Et vous savez à quel point les Juifs, comme Jacob, ont cherché à faire mariage avec une naïveté profonde. Les Juifs de la Révolution française étaient persuadés que Shrem, c'était l'homme des droits de l'homme et du citoyen. Alors, c'est ça qu'il faut découvrir. Voilà ce qui se passe donc dans ce récit. Je reviens sur l'épisode de Shrem de la famille de Caïn. Je vais vous montrer une lecture qui va vous aider un peu à réfléchir. Préparez en tout cas, si vous voulez, ce chapitre 34 pour la prochaine fois. Je répondrai aussi à ta question. Et vous réfléchirez à la question que je vais vous poser. Qui aura une idée? Pourquoi ils les ont circoncis avant? Réfléchissez à ça. Alors, on reprend notre verset 17. Je vais vous donner une indication de la Kabbalah, qui est un autre niveau d'exégèse, mais pour vous indiquer qu'effectivement, ce thème d'enseignement a beaucoup préoccupé la Torah Shabbatri. Qu'est-ce qui se passe là? Et allez bien. Vaikra, la fin du verset 17. Vaikra Shemaïr Keshem, Beno Hanu. Or, vous connaissez les Ta'amim de la lecture de la Torah? Sous le mot de Keshem, il y a un Tarha. Je vous le dis en intitulé Sfarad parce que on dit Tipha, si vous voulez. Okay? C'est un accent disjonctif. Comme s'il y avait une virgule qui sépare. Alors, je lis avec vous. et il nomma le nom de la ville Keshem. Beno Hanouk, son fils était Hanouk. Or, Keshem, c'est les lettres du mot Shrem. Comme si cette ville, c'était Shrem à l'origine, d'une autre manière, d'une certaine manière. L'endroit où on a donné le nom de l'homme à la ville, c'est là-bas qu'on va chercher si la ville n'a pas déjà rendu le nom à l'homme. Vous suivez ? Vaïkra et Shemaïr, Keshem, Otiot Shrem. Vous voyez, c'est clair ? C'est une indication pour vous montrer des niveaux de lecture plus profonds, n'ayez pas de cauchemar, toute la Bible c'est comme ça, à 70 niveaux. Alors, c'est la Torah, hein, c'est pas des données. Bon. Bien, alors on reprendra toutes ces questions. Alors, je pourrais te parler 5 minutes après le coup.
Oui.
Oui.
Vous avez dit qu'il y a un nombre à quoi, c'était de la nuit.
C'était quoi?
Le creux d'attirer de bras quoi.
Ah, c'était pour hier.
Oui. C'est pas le creux. Non, mais ça se voit pas dans la référence.